introspection.
Alors, c'est vrai que moi, au départ, je ne voulais pas faire de thèse. Voilà, ma directrice de mémoire m'avait demandé si je voulais faire une thèse après. J'avais dit non. Et en fait, je me suis retrouvée un peu, entre guillemets, par hasard. Donc, c'est vrai que ça n'arrive plus trop par les temps qui courent. Donc, ça peut paraître un peu désobligeant pour les personnes qui mettent vraiment beaucoup de temps à trouver un contrat doctoral. Mais en fait, je travaillais en parallèle de mes études. Donc, je travaillais notamment dans une billetterie de théâtre. Et j'avais fait mon mémoire sur les événements... d'un groupe, en gros sur des marges artistiques, à partir d'un groupe qui s'appelait le Syndicat du Hype à l'époque, donc qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et je travaillais, en fait, je devais scanner des questionnaires pour une grande enquête sur les publics de la musique classique. Mais donc plutôt comme petite main sur ce projet. Et il se trouve que dans leur financement par la région, ils ont eu une allocation doctorale sur laquelle ils ne comptaient pas spécialement, enfin qu'ils ne pensaient pas avoir. Et donc, ils cherchaient quelqu'un pour prendre ce contrat doctoral. Et donc, comme j'étais dessus, qu'il n'y avait pas spécialement d'autres personnes, on me l'a proposé. Donc, je me suis dit, bon, je gagnerais toujours plus d'argent en faisant ça qu'en étant à la billetterie. Et donc, j'ai fait ça. Et en fait, il s'agissait du coup de travailler sur la musique. Moi, c'est vrai que je n'avais pas forcément... J'ai travaillé dans un certain nombre de lieux musicaux, donc voilà, mais j'étais pas très à l'aise en fait avec cet objet musical que je trouve pour reprendre je trouve que c'est un des arts entre guillemets qui est le moins scolaire, enfin en tout cas qui est le moins enseigné scolairement et sur lequel c'est pas forcément toujours très facile de se sentir à l'aise et légitime. Et bon, peut-être j'y reviendrai après parce que ça a quand même joué aussi dans mon enquête et je l'ai observé aussi dans mes entretiens. J'ai essayé de croiser cette question de la musique avec ce qui moi m'intéressait, qui était plutôt la question des événements, des lieux, un peu de la vie qui entourait certains arts. Et donc c'est comme ça que s'est construite cette idée d'étudier les événements musicaux et donc aussi les lieux de musique. J'étais assez intéressée par les espaces, les lieux, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à imaginer cette question autour des lieux d'une ville. Initialement, je m'orientais plutôt vers une ville anglophone, plutôt en Angleterre, parce que j'ai plus de facilité en anglais. Mais en fait, y a, encore une fois, c'est un peu une construction. Enfin, je pense que c'est important aussi de souligner que la recherche, ça se construit aussi à partir de financements matériels et de conditions matérielles. Et donc, on m'a proposé un financement pour travailler sur l'Allemagne. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi Berlin. Mais initialement, je ne parlais pas allemand. Donc, il a quand même fallu qu'après, en arrivant en Allemagne, j'ai fait des cours intensifs d'allemand, voilà. Mais donc, c'est comme ça que s'est construit aussi cette comparaison. Et au départ, plutôt pour des raisons matérielles, mais je pense qu'en fait, rétrospectivement, ça a beaucoup plus de sens de l'avoir fait sur Berlin plutôt que sur une autre ville type Londres. Enfin, voilà, maintenant, je travaille aussi sur Londres, sur la scène musicale là-bas. Mais... ces 10 dernières années, et même depuis, en fait, quand j'ai commencé ma thèse en 2012, dans la décennie qui a suivi, vraiment la métropole de référence par rapport à Paris, c'était plutôt Berlin, très clairement, que d'autres villes comme Barcelone, comme Londres, comme d'autres villes en Europe. Donc, en fait, à mon sens, ça s'est construit dans un contexte qui était très favorable et ça avait vraiment du sens de faire cette comparaison-là. Et il n'y avait pas tant de travaux scientifiques en fait sur les événements musicaux, sur aussi un certain nombre de personnels en fait qui entourent, les personnels de renfort pour citer Baker ou les intermédiaires culturels pour citer d'autres approches. Il n'y avait pas tant d'études que ça sur ces personnels-là sur la musique. Il y en avait sur d'autres arts, etc. Mais c'était pas forcément une question qui était si étudiée que ça. Il y avait quand même une très forte focalisation sur les artistes aussi, parce qu'un certain nombre de sociologues qui se sont intéressés à ces questions étaient eux-mêmes un peu en marge de ces espaces musicaux-là, et donc aussi se sont beaucoup focalisés sur les artistes, qui aussi attirent beaucoup la lumière. Donc voilà, donc du coup, pour différentes raisons, ça s'est construit de cette façon-là. Et aussi, j'avais été pas mal influencée par les travaux de Christophe Charles, sur les capitales théâtrales, en fait, la construction de capitales européennes. Bon, c'est un historien, donc c'est plutôt 19e siècle. Mais la construction de capitales, en fait, européennes du théâtre. Et donc, j'ai un peu repris aussi cette façon de construire mon objet pour comparer des sortes de capitales musicales, même si ce n'est pas exactement comparable, mais voilà, pour voir comment ça se construisait à travers ces lieux de musique.
Et donc, vous commencez quand même tout de suite en voulant... aborder cet objet par la sociologie urbaine, surtout.
Alors, bah, en fait, comme j'avais ce questionnement un peu autour des lieux à travers les événements, c'est-à-dire qu'il y avait cette attention aux lieux, mais j'étais pas du tout formée en sociologie urbaine. Et par ailleurs, j'étais en thèse avec une chercheuse qui n'est pas du tout, qui n'étudie pas du tout ce type de questions. Donc, ce qui m'avait plus parlé, c'est que pendant mon mémoire, j'avais étudié un des articles de Pierre Bourdieu sur les lieux. Alors, c'est plutôt les lieux littéraires. Donc, il fait une étude notamment des lieux littéraires, je ne sais plus dans quel roman c'est. Enfin, voilà, mais il refait des cartographies, en fait, des lieux, des personnages qui dans Paris. Et donc, j'avais un peu, en fait, ça m'avait un peu marqué. C'est pour ça, initialement, avec aussi l'approche de Christophe Larle, que je me suis orientée plutôt sur cette question un peu urbaine, ville. Mais c'est qu'en arrivant à Berlin, donc j'ai commencé à faire mon terrain en 2013 à Berlin. Et en fait, c'est là-bas que ça m'a vraiment frappé de façon beaucoup plus nette la question urbaine. Parce qu'en fait, à Berlin, c'était extrêmement central dans les débats sur les transformations urbaines de la ville qui étaient assez fortes à partir de 2010. Et qui était lié aussi à l'histoire, la chute du mur, etc. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement structurant dans la scène musicale berlinoise, avec aussi tous les débats sur la gentrification, le manque d'authenticité, ce genre de questions. Et donc c'est à partir de là qu'en fait cette question allait vraiment émerger de mon terrain. Et donc après, en revenant à Paris, j'ai aussi reconstruit un peu différemment mon terrain avec cette question-là en tête, et j'ai commencé à m'intéresser effectivement aux questions de sociologie urbaine que j'avais moins prise, enfin en tout cas prise en compte de ma façon beaucoup moins frontale au départ.
Meine Nase friert und der Auspuff Rohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schauf die Straße runter, fällt mir bald bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen. Und flieg mein Blick dann himmelwärts, tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend, stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt, und ich tu einfach weiter fennen auf. Oh,
C'est vrai que alors, je suis partie vraiment plutôt des lieux parce que... Enfin, en fait, donc, ça part un peu cette question d'avoir l'impression d'être pas très légitime. Enfin, j'avais vraiment pas envie de me lancer dans un débat musicologique avec des gens sur... Parce que le milieu musical, là je parle plutôt des professionnels, mais ça peut se retraduire aussi dans le champ académique. C'est assez marqué quand même un peu par ces espèces de guéguerres entre gens, donc aussi beaucoup de références, faire référence. Enfin, il y a tout un savoir-être et un savoir-faire de citer. Alors ça me fait penser à tel artiste, tel album de 1992. Bon, les gens font peut-être moins ça maintenant que les gens sont moins attachés à l'album parce que les modes d'écoute ont un peu changé, mais j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans, je me sentais pas du tout compétente. Et donc, je suis vraiment rentrée par cette question des lieux et des intermédiaires, et donc des programmateurs, programmatrices, un peu aussi pour m'abstraire de ça, voilà. Et en fait, dans les travaux qu'il y avait sur la sociologie de la musique, il y avait vraiment principalement des travaux qui étaient centrés sur un seul genre musical. Après, il y avait les enquêtes un peu sur l'éclectisme, donc l'idée qu'on peut écouter différents types de musique, enfin cette remise en question de l'idée de Bourdieu, comme quoi il y aurait une hiérarchie culturelle, lié à la hiérarchie sociale, et des gens qui disaient « bah oui, mais là, en fait, maintenant, il y a une sorte de nouvelle forme de hiérarchie, c'est d'écouter différents genres musicaux ». Mais c'était des enquêtes quantitatives. Et après, de l'autre côté, il y avait des enquêtes plus quali, avec parfois un peu de quanti, mais sur une scène musicale particulière, donc le jazz, le rap. Voilà, il y avait les travaux de Morgane Jouvenet qui comparaient les artistes de l'électro et du rap. Mais c'était un des seuls, en fait, à parler de différents genres musicaux. Et après, il y avait quelques travaux anglophones, mais vraiment très rares, où pareil, il y avait un peu des choses sur différents genres musicaux. Donc, moi, je trouvais aussi que ces débats sur les genres musicaux, c'est un peu un débat de spécialistes et de professionnels. Et en fait, pour moi, ça recoupe aussi des frontières sociales. C'est-à-dire que les genres musicaux, et je l'ai vu pendant mes recherches, hein, il y a des artistes, par exemple... S'ils passaient aux trois baudets ou alors s'ils passaient dans une autre salle plus hip-hop, ils n'allaient pas du tout être caractérisés de la même façon. C'est-à-dire que soit dans un cas, ils allaient rentrer plutôt dans les réseaux de programmation de la chanson française ou de la chanson francophone, alors que dans un autre cas, s'ils étaient plutôt dans un lieu typé ou labellisé plus hip-hop, ils allaient rentrer plutôt dans ces cercles de programmation-là, alors qu'au départ, c'était la même musique. Enfin voilà, donc... Bon, ça, c'est un cas un peu extrême, mais en fait, il y a un certain nombre d'artistes qui sont plus ou moins labiles et qui peuvent un peu changer de genre. Donc, j'avais aussi un peu envie d'étudier ça et pas d'étudier le genre comme quelque chose qui existerait en soi, de même que l'opposition musique savante, musique populaire. C'est une catégorie sociale qui est assez forte, enfin voilà, qui est beaucoup utilisée et qui est très réutilisée, y compris chez les sociologues, mais qui à mon sens était pas, enfin voilà, qui est une forme construite, mais qui est pas forcément en soi, qui n'existe pas forcément en soi musicalement, même si il n'est pas forcément question de dire non plus que toutes les musiques sont exactement les mêmes, bien sûr, mais voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai appréhendé en fait cet objet musique et voilà.
Et donc, dans votre travail de thèse, vous mentionniez un peu l'arrivée sur votre terrain à Berlin. Mais quel tournant ou quelles étapes marquantes vous marquez où vous vous rendez compte que, là, je ne sais pas, votre recherche elle prend une autre direction auquel peut-être vous n'aviez pas pensé avant, au début ?
Alors, il y a effectivement ce tournant un peu sur la sociologie urbaine que je n'avais pas forcément tant anticipé que ça. Et il y a aussi la question de... des intermédiaires. En fait, il y a eu plusieurs publications, donc notamment le livre qui est co-dirigé par Delphine Naudier, Wenceslas Lisée, Olivier Rouef, de mémoire sur les intermédiaires culturels. Donc ça a été un livre qui a été assez important pour moi pour cadrer ma façon d'analyser en fait, le rôle de la programmation dans les salles de musique. Et je pense qu'aussi en arrivant à Berlin, en fait, je suis arrivée, j'étais un peu naïve. Hein. Je suis arrivée sur ce terrain, je ne connaissais pas la ville, je ne parlais quasiment pas allemand. Enfin voilà, c'était un peu... je débarquais comme ça. Après, je pense que ça peut être intéressant, dans tous les cas, d'avoir un autre point de vue sur son propre terrain qu'on a tendance un peu à naturaliser. Mais c'est vrai, quand je suis arrivée, je pense que j'ai aussi... Enfin, ça m'a vraiment fait prendre du recul sur les formes de catégorisation qu'il pouvait y avoir en France. Parce qu'il y a des formes, en fait, d'organisation de l'espace musical qui sont très différentes que je détaille un peu dans mes travaux. Et ça m'a vraiment permis de re-questionner en fait, des choses qui me paraissaient un peu évidentes ou aller de soi, en tout cas. Et notamment, par exemple, cette hiérarchisation de la programmation comme étant un peu tout en haut de la hiérarchie des intermédiaires. Ça m'a un peu permis de questionner ça, en fait. Donc ça, je pense que ça a quand même été une étape, en fait, la découverte de mon terrain berlinois et ensuite la poursuite de ce terrain-là, aussi avec une scène qui est beaucoup plus politisée qu'à Paris, donc aussi avec des questionnements qui sont arrivés quand même très tard sur la scène parisienne par rapport à la scène berlinoise sur les inégalités d'accès à la scène, notamment liées à des questions de genre ou de race, qui en fait ont été posées beaucoup moins frontalement et beaucoup plus tard à Paris qu'elles ne l'ont été à Berlin. Donc ça, c'est quand même des choses, ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de questions qu'initialement, je n'avais pas forcément envisagées en fait, quand j'avais commencé à préparer mon projet de thèse et à commencer mon terrain, quoi.
Et justement, dans tout ce projet-là, il y a quand même tout un travail assez conséquent de construction de bases de données qui n'existaient pas, j'imagine, avant. Et ce travail-là, autant la recension des lieux, mais aussi le choix d'entretien avec des programmateurs ou des intermédiaires culturels et des ethnographies, comment vous essayez de le faire pour le rendre peut-être le plus exhaustif ou alors essayer d'avoir un panorama qui correspond à votre objet?
Bah, c'est vrai qu'au début, donc, la base de données, je l'ai plus commencée parce que j'avais l'impression que je ne connaissais pas assez bien. Enfin, moi, j'avais fait mes études à Lille, donc je n'avais pas fait mes études à Paris. J'étais à Paris depuis un an et demi. Et donc, j'avais l'impression de ne connaître pas forcément très bien la scène, disons, musicale, artistique parisienne. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé, en fait, cette recension des salles initialement pour me dire, bon, je vais essayer de voir, d'avoir un peu une idée exhaustive de ce qu'il y a à Paris, de... Qu'est-ce qu'il y a comme type de salle? Parce que c'est vrai que c'est quand même une grande ville, par rapport à une ville qui est quand même plus petite à Lille, même s'il y a pas mal de lieux. Et donc, initialement, c'était plus que j'avais l'impression de ne pas trop maîtriser cette scène. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à essayer de lister les lieux, je me dis, bon, je ne vais pas me rappeler, ce serait quand même bien que je me dise que, voilà, parce que c'est une grande salle, une petite salle. Enfin, voilà, donc j'ai commencé à lister. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été prise dans cette folie de cette base de données qui a quand même été effectivement un travail considérable parce qu'elle n'existait pas auparavant. Enfin, j'ai récupéré quelques données auprès de l'IRMA qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait une base de données plutôt des salles qui étaient ce qu'ils appelaient musique du monde. Donc voilà, mais c'est une toute petite partie de la base et ils n'avaient pas du tout toutes les informations. Enfin, c'est moi après que j'ai fait des catégories que j'ai remplies, mais ils avaient quand même une liste de lieux. Voilà, donc j'ai récupéré quelques trucs comme ça, mais j'avais très peu de... Enfin, je partais un peu de rien. Et c'est pour ça que je n'ai pas dupliqué exactement la même base à Berlin, parce qu'en fait, c'était trop de travail. Enfin, je ne pouvais pas faire les deux, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé, mais c'était un peu trop pharaonique. Mais aussi parce qu'au départ, en fait, les gens étaient très réticents à mon projet de thèse. Enfin, c'est-à-dire que tous les sociologues de la musique qui avaient des titulaires avec lesquels j'échangeais, étaient tous extrêmement réticents. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend moins compte parce que les débats sur le genre musical ont beaucoup changé. Mais à l'époque, vraiment, les gens disaient « Mais ça n'a aucun sens de faire un truc sur tous les genres musicaux. C'est beaucoup trop vaste, tu vas te perdre, c'est quoi l'intérêt ?» Voilà, il y avait vraiment un truc assez... Et donc, l'idée, c'est aussi un peu d'essayer de recenser pour avoir l'impression de maîtriser un peu de façon... Plus exhaustive le terrain et de contrer un peu ce type de remarques qui m'étaient quand même très souvent faites, bon, principalement par des chercheurs titulaires plus vieux et plutôt des hommes. Et donc d'essayer de légitimer un peu mon approche. Et en fait, ça m'a aussi permis d'avoir cette base de données, d'essayer de positionner en fait mes entretiens. Donc j'ai commencé à faire des entretiens avec les programmateurs, programmatrices, aussi parce que je pense que moi-même, j'étais très prise dans cette hiérarchie dont je parlais des intermédiaires où il y a la programmation tout en haut. Enfin, moi, j'avais fait un master initialement pour travailler dans des projets culturels et vraiment, on nous présentait la programmation comme le Graal qu'on n'aurait certainement jamais, etc. Donc, je pense que j'étais très prise dans cette idée-là. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis focalisée sur cette position-là. Et en fait, la base de données, ça m'a permis un peu d'objectiver finalement avec qui je faisais des entretiens, où ils étaient situés dans cet espace-là. Est-ce que c'était... Bon, ça ne va jamais être 100% représentatif parce qu'il y a des gens qui répondent jamais, il y a des gens qui répondent systématiquement dans certains espaces, sous-espaces musicaux, disons. Mais d'avoir une idée quels espaces il me manquait un peu. Par exemple, est-ce que j'avais aucune grande salle de musique classique, par exemple, ou est-ce que j'avais que ça? Est-ce que les petites bars de jazz, trucs comme ça, est-ce que j'avais aussi? Donc ça m'a permis de situer un peu et de même pour mes observations. Même si pour mes observations, donc à la fois j'essayais de voir un maximum de trucs et comme j'avais pas forcément de financement pour mes billets de concert, je faisais énormément avant. Bon, il y a plus trop ça tant que ça maintenant sur Internet et beaucoup de trucs sont payants alors qu'avant c'était un peu moins le cas. Mais du coup, je faisais beaucoup de jeux concours en ligne, voilà, pour gagner des places sur des magazines culturels, etc. Et donc, ça me permettait un peu d'essayer de diversifier aussi. Parce que voilà, parfois, il y en a qui coûtaient assez cher. Diversifier un peu les observations et de me dire que j'avais quand même, en rapportant ça à ma base de données, qui est, à Paris, est quand même relativement exhaustif. Enfin, quasiment, il y a pas tout à 100%, mais il y a quasiment quand même la très, très grande majorité des salles. Voir voilà, que j'avais à peu près couvert les différents arrondissements, que j'avais à peu près couvert les différents genres, les différents types de jauges, etc. Donc c'est un peu comme ça que j'ai construit mon dispositif méthodologique, mais un peu au fur et à mesure aussi, en me disant que c'était important d'avoir cette approche à la fois qualitative qui permet de voir un certain nombre de choses que j'aurais jamais comprises purement à partir d'une approche quanti, mais aussi d'avoir cette approche quanti qui me permettait quand même de visualiser un peu mieux aussi l'ensemble. Un peu plus méso, quoi, de ce que je traitais.
Les hommes, on dirait que c'est des loups comme dans Tex Avery. Moi, je veux danser, m'amuser, et c'est pas pour être provocante. Et me revoilà toute magnifique. Cette jupe est juste assortie à la saison. Je ne veux pas perdre le goût de danser. Il faut se méfier des hommes qui draguent. J'apprends à la gourmandise pour exister davantage. Cheese, bad girl!
Je pense que, bon, d'une part, c'est sûr que ma... Disons que moi, j'allais plutôt écouter des trucs peut-être plus de musique, plus indé ou expérimentale, etc. Donc ça, je pense que ça... Enfin, la façon dont j'ai construit mon objet est aussi liée à ça, puisque j'aurais pu me concentrer sur les salles professionnelles, par exemple. Au départ, c'est un peu ce qu'on m'a conseillé, de se concentrer sur les salles professionnelles. Mais bon, moi, j'allais plutôt dans des squats, des trucs comme ça. Donc, je voulais aussi intégrer ce type de lieu. Et à Berlin, je pense qu'au début aussi, ma fascination pour la scène alternative a clairement joué. J'ai mis un peu de temps à découvrir qu'il y avait aussi toute une scène plus commerciale à Berlin. Donc voilà, donc clairement, c'est sûr que ça a influé sur aussi ma façon de construire cet objet-là. Je pense qu'aussi, j'arrivais effectivement avec une vision de la programmation très idéalisée. Et une des choses que j'ai découvertes en faisant le terrain, que m'a dit un programmateur, enfin, en fait, c'est marrant parce qu'eux-mêmes ont un peu ces deux discours. C'est-à-dire qu'à la fois, souvent, quand on leur pose des questions d'emblée, ils présentent la version idéalisée. Et puis, quand on creuse, on voit qu'en fait, c'est très différent de ça. Mais ils me disaient, c'est comme être un bibliothécaire et ne jamais lire aucun livre. Voilà, mais pour dire aux gens, vous devriez prendre ce livre ou un libraire, acheter ce livre. Mais bon, je ne l'ai pas lu, mais on m'a dit que c'était très bien. Et effectivement, je me suis rendu compte, bon, j'exagère un petit peu, mais que la programmation, moi, je me faisais une image, ah là là, je passe ma vie dans des concerts, je vais à des festivals, etc. Puis en fait, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, la programmation. Enfin, c'est plutôt, j'ouvre 200 000 mails par jour, je fais un tri parce que là, c'est Jean-Pierre qui m'a envoyé tel mail et je sais que, bon, en général, c'est les trucs qu'il m'envoie, c'est plutôt ce qu'on programme et ça marche bien. Donc du coup, là, je vais regarder. Puis c'est vrai que le nom du groupe, on en a déjà parlé 5 fois, donc quand même, ça, voilà. Bon, je dis pas qu'ils écoutent pas de musique, bien évidemment que oui, et ils connaissent énormément de musique, mais malgré tout, il y a quand même, voilà, c'était pas du tout la vision idéale typique, je passe ma vie en concert. Finalement, je pense que j'ai passé presque plus de temps qu'eux en concert à cette période-là de ma vie. Et après, je pense que oui, ça a quand même changé mon rapport à la musique. Alors maintenant, ça va mieux, mais juste après ma thèse, je voulais plus du tout mettre les pieds dans un concert, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, j'étais... Enfin, c'est pas la même chose en fait d'aller dans un concert. Parce que par exemple, quand je faisais ma thèse et même maintenant encore, les gens qui découvrent ce sujet ont toujours tendance à dire « Ah là là, bah, ça va, tu t'es bien débrouillé, tu fais une thèse pour passer ta vie à faire des concerts, bon, plutôt pas mal. » Bon, je vais pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'aller en concert pour le travail, c'est pas la même chose qu'aller en concert si on y va avec ses amis ou voilà. Et au bout d'un moment, je saturais vraiment. Enfin, déjà, voilà, mon entourage ne voulait plus m'accompagner à 50 millions d'événements divers et variés, pas forcément dans les styles musicaux attendus. Se rendre en boîte de nuit, je ne sais pas, sur les Champs-Élysées, à 1h du matin, toute seule, en n'ayant ni bu, ni consommé quoi que ce soit. Un samedi soir, en devant s'habiller selon le truc pour rentrer dans la boîte et tout. Ce n'est pas forcément le samedi soir qu'on avait prévu, donc... J'ai saturé un peu, puis aussi, j'arrivais plus à voir un concert sans être en train de regarder. Alors, c'est qui le public? Quels sont les types d'échanges entre la scène et la salle? À quoi ressemble la salle? Enfin, voilà. Et donc, j'arrivais plus du tout à profiter de la musique, en fait. Je finissais par me dire, mais pourquoi les gens vont dans ces trucs, quoi? J'ai fini cette thèse et je n'ai toujours pas de réponse à ça. Voilà, donc ça a mis quelques années, mais maintenant, je retourne en concert quand même... avec plaisir, mais c'est sûr, et je pense que ça a quand même élargi un peu les types de musique que j'écoute, et aussi le type de lieu que je peux fréquenter. Je vais un peu plus souvent dans des plus grandes salles, alors qu'avant j'y allais quand même moins souvent, je pense, voilà. Donc je pense que oui, ça a élargi un peu mes horizons musicaux à force de fréquenter différentes scènes que j'aurais pas spontanément fréquentées, quoi.
Et vous arriviez quand même à avoir des chocs esthétiques dans cette position un peu de... Enfin, je sais pas où... Vous y allez à la base pour votre recherche à un concert et puis finalement, vous adorez ce qui s'y joue.
Bah si, après, on reste un être humain, même si je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour les chocs esthétiques. Mais si, si, il y a quand même... Enfin, il y a eu des concerts. Alors là, je ne sais pas, j'essaie de penser. Évidemment, je vais pas...
Enfin, je veux dire, c'est plus la posture un peu de chercheuse dans une salle de concert comme ça où forcément... Est-ce que ça limite un peu l'expérience du concert Enfin, vous le disiez sur l'analyse des publics, tout ça, mais est-ce qu'il y a des moments où justement cette posture elle disparaît un peu au profit d'une posture plus normale d'un quelqu'un qui va écouter un concert ou pas du tout?
Bah, je pense que oui, enfin, de toute façon, on est pris ou pas par la musique selon ses propres goûts musicaux, selon l'ambiance de la soirée. Enfin, il y a forcément des choses qui se passent et moi, c'était quand même très... En fait... Quand même, on rentre dans la soirée. Enfin, on est un peu obligé de participer à la soirée. Je pense que la différence, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, je serais jamais allée voir un concert toute seule, en fait. Voilà. Et c'est vrai que faire des ethnographies, ça a conduit au fait que j'ai fait énormément de concerts, enfin, ou d'événements musicaux seuls. Et en fait, on se rend compte que dans les lieux musicaux, il n'y a quand même pas tellement de femmes seules. Et ça, ça a quand même énormément joué, je pense, sur mon expérience, que la grosse différence avec aller en concert ou en événement musical avec ses amis et y aller seule quand on est une femme, c'est que ben, quasiment systématiquement, si c'est un événement mixte, voilà, on se retrouve à avoir 15 mecs qui nous parlent pendant la soirée, ce qui, en fait, habituellement n'arrive pas. Enfin, voilà. Et donc, ça change quand même un peu. Enfin, c'est-à-dire que effectivement, j'ai souvent beaucoup plus parlé à certaines catégories de personnes pendant mes observations, ce qui changeait quand même un peu de ma... Mais du coup, qui me prenait pour une personne lambda. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, sauf que moi, j'étais un peu là, entre guillemets, pour travailler. Enfin, donc, ça a créé une espèce de situation un peu étonnante. Mais en même temps, moi, je parlais aussi, ça me permettait d'avoir des informations souvent quand même sur l'événement, sur des choses comme ça. Donc, à la fois, c'était une situation normale où je pouvais profiter de la musique. Voilà, c'est pas parce que je travaillais qu'en fait j'avais une sorte d'impassibilité. Et puis, en fait, on se laisse aussi entraîner. C'est-à-dire que dans des ethnographies, il y a certaines ethnographies où je suis allée, j'ai regardé, et puis je suis repartie. Et puis, il y en a d'autres, on croise des gens. Au bout d'un moment, on finit par connaître des personnes, on finit par suivre des gens. Éventuellement, enfin, parfois, on peut aussi être entraîné par les consommations diverses qui ont lieu dans ce type de lieu. Parce que c'est aussi ça qui est un peu étrange, c'est que la plupart des personnes vont quand même en concert. Et je ne dis pas que c'est, la totalité, mais une majorité de personnes, quand même, par exemple, consomment de l'alcool ou d'autres choses. Et quand on y va en ethnographe, voilà, rarement on consomme. Enfin, je veux dire, sinon, on ne va pas... Puis on n'est pas... Enfin, la plupart du temps, j'ai quand même un carnet avec moi, à l'époque, en tout cas. Et donc, je prenais quand même des notes. Mais on n'est pas tout le temps non plus avec son carnet, parce que ça fait un peu bizarre, en fait, quelqu'un qui est en concert avec un carnet en train de prendre des notes. Les gens ne comprennent pas trop. Ça va dans un concert de musique classique, mais dans d'autres types de lieux, ce n'est pas forcément très spontané. Et des fois, on est emporté par, par aussi l'ambiance. Et donc, on va avec l'événement. Et là... on peut aussi, c'est une ethnographie entre guillemets qui dérape. C'est-à-dire, est-ce que quand, par exemple, si on prend diverses substances psychoactives, est-ce qu'on reste en train de faire une ethnographie ou est-ce que, en fait, là, on est passé dans autre chose? Bon, c'est le cas de beaucoup d'ethnographies participantes. C'est une question qui est peu traitée par la littérature en sociologie, je pense, parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de mettre en avant, surtout quand on fait sa thèse et qu'on n'a pas encore de poste, etc. Mais c'est quand même des choses qui se posent dans beaucoup d'ethnographies. Quelle qu'elle soit, je veux dire, pas forcément sur ces questions-là, mais en fait, on est toujours aussi un peu pris par son terrain. Et en fait, il y a une limite, mais à la fois, elle est parfois floue, parfois on est embarqué dans des choses un peu... Voilà, moi, je me suis retrouvée 2-3 fois backstage. Il y a aussi un flou pour les gens sur quel est notre statut exactement, qui on est. Enfin, voilà, moi, j'étais une jeune femme, donc ça conduit que quand même, on est vu comme pas forcément comme une doctorante ou comme quelqu'un qui est en train de travailler, on est vu comme autre chose, enfin... Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Et donc, on n'est jamais... Enfin, je veux dire, en tout cas, travailler dans ce type d'espace n'est pas totalement dissocié de vivre une expérience dans ce type d'espace, à mon sens. Mais comme je pense dans beaucoup d'ethnographies.
Sugar, sugar, sugar.
Bah, déjà entre 2012 et disons fin 2016-2017, quoi, parce que j'ai soutenu en juin 2017, donc j'ai à peu près arrêté, disons fin mi-2016 le terrain. En fait, c'était quand même une bonne période pour observer le secteur de la musique dite vivante ou le live, parce qu'en fait, donc il y a eu un peu la chute de la musique enregistrée 2002, quoi. C'est un peu le moment où voilà, on dit l'industrie du disque commence à souffrir, perdre beaucoup d'argent. Et donc, il y a eu un report sur la musique live au cours des années 2010, avec un peu une explosion de ce secteur au tournant des années 2010, quoi. Donc, c'était un bon moment parce que, du coup, ça se reconfigurait un peu. Il y avait et on voyait certaines tendances qui, effectivement, se sont affirmées depuis. Et notamment, une des grosses tendances que moi, j'ai vu apparaître au fur et à mesure, c'est la question de la concentration économique, enfin, avec le rachat de festivals, de lieux par des gros acteurs internationaux, donc qui est moins forte à Paris que dans d'autres capitales. À Berlin aussi, ça a été un peu un moment tournant urbain avec l'arrivée quand même de beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont changé la figure de la ville qui aujourd'hui ressemble plus du tout à ce qu'elle ressemblait à ce moment-là. Donc c'était quand même un bon moment pour observer ces dynamiques de transformation. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu un certain nombre de modifications, de changements à Paris, par exemple. Déjà, aujourd'hui, par exemple, si je refaisais cette enquête, je ne ferais pas un truc sur Paris intramuros. À l'époque, j'ai fait ça parce qu'en fait, bon, c'était pour des questions de faisabilité, parce que déjà, c'était très large. Et donc, en fait, j'ai intégré cette question de la petite couronne un peu dans l'ethnographie, mais pas, par exemple, dans ma base de données, parce que c'était trop de travail. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens. Enfin, aujourd'hui, les représentations... À l'époque, il y avait quand même encore cette représentation très... centré sur Paris intramuros, aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens, je pense, de faire ça. Enfin, il faudrait élargir beaucoup plus. Donc, il y a des choses comme ça, par exemple, qui ont changé. Il y a aussi la question, toutes les questions sur les inégalités de programmation. Elles sont beaucoup plus centrales aujourd'hui dans le débat au sein du monde musical. Il y a aussi les questions sur la question de l'écologie, de la transition écologique... et de la décroissance au sein du secteur live, qui est un peu en opposition avec la concentration économique croissante dans ce secteur qui est posée, la question des usages numériques aussi qui est beaucoup plus forte. Donc ça, c'était des questions qui étaient moins présentes pendant mon terrain et qu'on voit effectivement beaucoup plus clairement aujourd'hui. Et après, une chose effectivement qui a heurté de front mon terrain, c'est cette question de la sécurité, enfin que moi à laquelle je m'étais jamais intéressée auparavant, mais en 2015, il y a eu les attentats, notamment au Bataclan, et ça a vraiment, moi sur le moment, bon, j'étais un peu comme tout le monde, ça, j'avais rien de spécialement plus intéressant à en dire que n'importe quel quidam. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai vu que ça avait quand même eu un impact assez fort sur les salles et particulièrement sur les festivals. Et donc, c'est comme ça, en fait, que c'est par ce biais-là, les effets que ces événements avaient eu sur les lieux musicaux et les événements musicaux, que j'ai commencé à m'interroger sur la question sécuritaire, en fait. C'est par ce biais-là, notamment, il y avait eu la question de l'augmentation des factures des festivals, des factures liées à la présence des forces de l'ordre, qui a fait beaucoup de bruit autour des années 2018. Et donc, c'est par ce biais-là que je me suis intéressée à la question de la sécurité et en fait que j'ai vu aussi apparaître cette question de différents types de logiciels qui étaient destinés à aider à la gestion de foule, notamment dans les gros festivals, etc. Et qu'ensuite, j'ai commencé à travailler sur ces questions de sécurité numérique. Mais donc, vraiment, ça vient de cette question-là. Et il me semble, enfin, pour moi, et je le vois aussi maintenant dans mes recherches, par exemple, sur le Royaume-Uni, les lieux, en fait, bon, plutôt les lieux nocturnes, disons, les lieux musicaux, mais plutôt côté vie nocturne, sont quand même des lieux de développement d'un certain nombre de dispositifs de sécurité, il me semble. Alors, il y a d'autres lieux qui sont aussi des lieux de développement de dispositifs de sécurité, mais en tout cas, ils en font partie. Et il me semble que c'est pas... c'est quand même assez important à noter. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, oui.
Et justement, cette articulation au début de se concentrer sur les événements, peut-être les événements festifs, et après à cette thématique de politique de sécurité à l'échelle large dans la vie quotidienne, comment vous passez cet axe-là sur l'événementiel à une thématique plus globale dans la société?
Il me semble que déjà cette question de l'événementiel, donc là, dans mes travaux actuels, j'ai élargi à l'événementiel aussi sportif, donc notamment, par exemple, les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont eu lieu en 2024. Mais en fait, il me semble que cette question de l'événementiel, elle devient quand même assez importante dans des villes, un peu des métropoles, des grosses métropoles, dans les usages en fait, d'un certain nombre de personnes qui ont quand même du capital économique, du capital culturel, qui ont un certain mode de vie. C'est quand même quelque chose qui est assez important et qui vient un peu en tension avec les usages numériques. Donc il me semble que voilà, il y a un renforcement des usages numériques, mais du coup, il y a aussi en parallèle, ça va pas forcément en opposition, une valorisation d'un certain nombre d'événements un peu expérience, enfin, d'une dimension aussi expérientielle. Et donc, pour moi, cette question de l'événementiel, elle est quand même importante dans le développement des grandes villes aujourd'hui. Et donc, de voir qu'en fait, cet événementiel est de façon croissante, de plus en plus sécurisé, et aussi qu'on voit que certaines techniques en fait, qui sont utilisées pour sécuriser ces grands événements, elles vont circuler en fait, au quotidien. Et qu'un certain nombre d'entreprises en fait, sont à cheval entre finalement l'événementiel. Pour eux, c'est un petit marché, mais eux, leur marché principal, c'est plutôt les grandes villes, en fait, enfin les villes. Et donc, c'est en fait plutôt comment j'ai généralisé. C'est plutôt à partir des acteurs qui s'investissent dans ces secteurs-là. Donc, un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui s'investissent là-dedans ou d'essayer d'examiner un certain nombre de politiques dédiées à la gestion de l'événementiel qui peuvent ensuite, en fait, être utilisées dans d'autres contextes. Donc, à la fois des dispositifs numériques, mais aussi des modes d'organisation, par exemple, des forces de l'ordre, des entreprises qui vendent certains services, qui vont les vendre dans d'autres contextes. Voilà. Et donc, on voit qu'en fait, derrière l'événementiel, souvent, il y a simplement les espaces urbains et les villes, en fait. Okay. Voilà.
Et justement, mais là, j'y repense juste sans forcément une référence directe, mais parce que dans la thèse, il y a quand même tout ce côté hyper intéressant sur l'histoire des lieux entre Paris et Berlin et les différentes approches au niveau politique public. Enfin, je pense au squat, surtout, à Berlin. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que vous parliez de Londres et il me semble que ce terrain-là, il est surtout concentré, enfin, il n'est pas forcément concentré à Berlin, mais est-ce que vous voyez une évolution depuis il y a 10 ans, notamment sur Berlin, cette gestion des squats, enfin, quelles évolutions il y a dans les villes? Est-ce qu'il y a vraiment des disparités, enfin, ou des continuités, peut-être parce que Paris a vraiment ce côté moins ouvert, en fait, à l'occupation des lieux. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi en France toute cette question sur la répression des free parties, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, on le voit un petit peu déjà en filigrane dans l'ouvrage, et bon, bah, là, avec le temps et les événements, ça s'est accentué, ou est-ce que, finalement, il y a eu des évolutions un peu différentes là-dessus?
À Berlin, en fait, c'était quand même peu des squats réellement au sens légal du terme. C'est-à-dire que c'était plutôt des lieux dont on ne savait pas forcément qui étaient les propriétaires, etc. Enfin, ou alors, on n'était pas très regardant sur les conditions d'exploitation du lieu, mais ce n'était pas forcément en soi illégal, même si les conditions d'exploitation n'étaient pas légales. Mais en fait, on voit qu'il y a eu une énorme transformation. Enfin, en fait, ils ont très, très mal résisté à l'arrivée d'un certain nombre de promoteurs immobiliers internationaux et nationaux qui, en fait, ont beaucoup changé la ville et les acteurs qui... Enfin, et puis les possibilités, en fait, de produire des choses un peu en dehors de contraintes économiques très fortes. Donc, en fait, les contraintes économiques aujourd'hui sont beaucoup plus fortes et ils ont beaucoup tablé sur l'économie, notamment des startups, du numérique. Et ça a aussi beaucoup changé la face de la ville, enfin, comme ça fait, par exemple, à San Francisco ou dans d'autres villes. Donc, on voit que... C'est vrai que moi, je n'aurais pas forcément prédit, par exemple, à l'époque, que la ville résisterait si mal à cette arrivée de capitaux, en fait, et à cette réintégration à un circuit économique très capitaliste. Et finalement, les formes de résistance, elles ont existé. Il reste encore certains lieux qui restent en dehors de ça. Voilà. Mais bon, après, je ne suis pas au fait des derniers événements à Berlin, mais en tout cas, ça, finalement, leur technique qui était de valoriser aussi les clubs pour leur apport économique dans la ville, etc., à l'époque qui était une ville quand même très pauvre et qui leur ont servi à se légitimer, aujourd'hui se retourne un peu contre cette culture-là, en fait, qui du coup est traitée quand même très à travers cet angle économique. Et quant à Paris et aux villes alentours, il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse disparition des squats culturels. Enfin, je veux dire, par rapport à il y a 15 ans. Alors, peut-être que je suis juste vieille et que je ne les connais plus. Hein, c'est aussi possible, puis je n'habite plus à Paris. Mais il me semble qu'il y en a quand même beaucoup moins, à la fois parce qu'il y a une répression extrêmement forte, mais aussi parce qu'un certain nombre de politiques qui étaient en fait des politiques un peu positives, enfin, vues positivement au départ, ont aussi fait disparaître ces lieux, donc notamment tout ce qui est friche et urbanisme transitoire. Enfin, c'est vrai que moi, je suis assez étonnée par le développement aussi de tous les discours sur les tiers-lieux, etc., qui sont quand même une forme de réintégration à la fois marchande de ces espaces-là et aussi de contrôle un peu des contenus. Parce que dans les squats, voilà, on ne contrôlait pas forcément toujours très bien ce qui se passait. Bon, ça aussi, c'est mauvais côté. Mais il y avait quand même plus de marge de manœuvre. Et donc ça, c'est vrai que là, on voit que ça s'est quand même accentué et qu'on a une forme une marchandisation, notamment des grosses fêtes, et notamment dans les musiques électroniques, qui s'est extrêmement renforcée avec une périphérisation assez forte des free parties.
Je m'en bats les couilles. En fait, c'est ça la vérité. Je reprends ma fouille. Dehors, la haine, viens mériter. Viens visiter. Chez nous, pas de gros meubles, pas de grosse télé. On prend les cafards dans le mouchoir. Et moi, j'ai trop le seum depuis que je suis né. Y'a que le diable qui me laisse des pourboires. Tiens la putain de ta mère. Tu veux savoir où je te pèse? Pour un putain de salaire. Je laisse pas une pièce pour tes fesses. Tu veux de la punch, suce ma bite. J'rappe ma vie, pas celle de ces bitches. Sans déconner, j'ai le cerveau vide. Les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. J'en transmis avec du son. J'partirai seul en balade. Juste du terre et des feuilles. Et j'traîne seul sur Paname. Dans le bol, il me faut un plan. J'suis seul à ouais sa mère. Des fois j'rêve de la mer. Et j'traîne seul sur Paname. J'ai qu'un rêve dans la vie. J'veux pas leur compagnie. J'veux pas de cette vie banale. Sur Paname. Eh mon oncle, tu te rappelles? À bébé, 7 sur 7, tout l'hiver. Sur Paname. J'roule et j'les vois pas. J'coule et j'm'adapte. J'cours après ma porte. J'casse un tour loin des hommes, je fais une OD. Que du bon char depuis que j'suis en âge de monter. On les met au frais, on raccroche. Le bruit du Giro nous rappelle que le chétan nous attend. Prochain level, 300 tractions, smoke inter ego, j'ai des ailes. Wesh le dada, on tombe cet été, pas on s'adapte. C'est une dada, ça paye pas, pas c'est reptata. Dis-moi t'étais où quand j'faisais la guerre. J'pète du niax, mon place fait le tour de la terre. La haine qui nous catapulte, j'pète Navajo, pas ta pute. J'fais péter à Casper. Quand ça pue, ben je casse ma puce. Le poche, on me fait la soirée. Cette tasse me fait la soirée. On sait qu'ils nous aiment pas, ils savent qu'on les pêche. Je compte le PNF sur le bout de Gilopez. Ces bâtards sont bien lents dans notre vie. Chacun son PNF, chacun son revêt. Les mains froides contre tous ces billets. PNL plutôt crié. Ils ont chaud au canon scié. Et je traîne seul sur Paname. Dans le bol, il me faut un plan. J'suis seul à ouais sa mère. Des fois j'rêve de la merde. Et j'traîne seul sur Paname. J'ai qu'un rêve dans la vie. J'veux pas leur compagnie. J'veux pas de cette vie banale. Sur Paname. Eh mon oncle, tu te rappelles? À bébé, 7 sur 7, tout l'hiver. Sur Paname. J'roule et j'les vois pas. J'coule et j'm'adapte. J'cours après mon port.
Je voulais revenir un peu sur cette mention aux références à la vie nocturne berlinoise à Paris, parce que c'est déjà présent dans le livre, mais c'est, C'est toujours le cas. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait l'ouverture de ce club, mais ce n'est pas forcément pour cibler celui-là, mais le Miamao, pas très loin, à la Villette à Paris. Et j'ai repris avant, parce que, en lisant l'ouvrage, j'y ai repensé, puis j'ai repris juste avant de venir des termes pour le définir, qui est présenté comme le temple de l'électro, une révolution culturelle du clubbing, où il y avait une citation aussi en titre d'un article de Libé qui disait « Berlin n'a qu'à bien se tenir ». Et moi, ce que je trouve intéressant quand même dans votre recherche, c'est qu'on voit à quel point tous ces lieux de Berlin et l'expérience de la musique qui en découle, elle dépend quand même d'une histoire sociale et culturelle, d'un contexte de politique mise en place par la ville, qui est complètement différent à Paris. Et vous, en fait, comment vous le recevez, cette communication-là et ce marketing ? Est-ce que, quelque part, vous voyez aussi quand même qu'il y a des choses qui arrivent à passer, à dialoguer entre les villes, ou alors c'est un discours qui reste pour présenter, valoriser peut-être l'initiative
En fait, pour moi, il y a des circulations très clairement entre les deux villes d'artistes, de collectifs. Enfin, il y a des collectifs de programmation, des choses qui ont des échanges. Donc ça, il y a toujours eu. Et c'est vrai que Berlin, en Europe, est une des villes avec d'autres grandes métropoles, mais qui a contribué à la diffusion d'une certaine frange des musiques électroniques. Donc c'est sûr qu'il y a eu des circulations et qui a aussi permis d'importer un certain nombre de musiques d'autres pays, par exemple des États-Unis, mais pas seulement. Donc voilà, après c'est vrai que c'est drôle parce que ce que vous citiez, je me demandais en fait si vous citiez des extraits que j'avais cités dans mon livre, parce qu'en fait ça ressemble énormément à des choses qui se disaient aussi même dès 2014-2015, où pareil il y avait un peu le même type de phrases que j'avais reprises sur par exemple même des collectifs qui s'appelaient par exemple Berlin non Paris ou des choses comme ça, donc on retrouvait des articles de presse qui disaient un peu la même chose il y a 10 ans. Et donc cette référence à Berlin, en fait, pour moi, elle sert vraiment un peu à authentifier et à légitimer. Et c'est très basé sur des formes ou des pratiques très précises, mais comme vous dites, qui sont totalement décorrélées en fait d'une histoire et de pratiques de fonctionnement des lieux, de type de programmation, enfin, et qui ici sont en fait dans un contexte quand même relativement marchand, beaucoup plus professionnalisé, qui est très différent de celui dans lequel ces pratiques sont nées à Berlin. Et qui n'a pas du tout, qui donne pas du tout même la même expérience sociale. Parce que si on pense, par exemple, ça a été donc ce club en question là, il a été beaucoup cité par rapport à Berlin, notamment parce qu'il y a cette idée de mettre un petit scotch sur les téléphones portables pour qu'on puisse pas prendre de photos. Et donc voilà, comme donc ça c'est la référence en fait quand même, la référence un peu massue comme au Berghain. Donc le Berghain, ça fonctionne vraiment toujours comme ce tampon de légitimité. Et ça fait quand même des années, alors que à Berlin, un certain nombre de personnes critiquent le Berghain parce que justement, c'est devenu un peu dévendu, etc. Donc, on voit qu'à l'étranger, ça reste quand même un marqueur d'authenticité un peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Berghain, par exemple, pourquoi il y a aussi cette politique-là qui est quand même effectivement assez dure ? Parce que moi, une fois, je me rappelle, j'avais oublié un appareil photo dans mon sac. C'était pas un smartphone, un appareil photo. Et j'avais oublié de le dire au videur à l'entrée. J'ai failli me faire sortir parce que je leur avais dit non, j'ai pas d'appareil photo. Et puis en fait, j'en avais un. Bon. Donc, effectivement, il y a quand même une tension un peu sur ça. Mais pourquoi aussi ? Parce que c'est un lieu en fait, qui mélange notamment pratiques musicales et pratiques sexuelles, ce qui, en fait, en France, est beaucoup moins développé que ça ne l'est en Allemagne, parce qu'effectivement, l'histoire n'est pas la même. Enfin, ou en tout cas à Berlin, parce que l'histoire de la scène musicale n'est pas la même. Mais donc, il y a aussi des backrooms dans le Berghain. Donc, sous le Berghain, il y a un club gay, sexuel, quoi. Et après, le Berghain, c'est ouvert à tout le monde. Et là, il y a aussi des backrooms dans cet espace-là. À Paris, il y a très, très, très peu de salles. Alors, ça existe dans quelques soirées, un peu, voilà. Mais il y a très peu de salles. En tout cas, pas une salle comme ça. C'est comme si à la machine du Moulin Rouge, presque. Bon, c'est pas la même... on parle pas exactement du même positionnement artistique. Mais c'est comme si à la machine du Moulin Rouge, on avait des backrooms. C'est absolument impensable. Enfin, je veux dire, dans l'état de la scène actuelle. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette politique de pas prendre de photos. Là, c'est un peu comme si on faisait, en fait, à peu de frais, on vend un peu du frisson. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans ce club. Bien évidemment, il se passe toujours des choses dans les lieux de musique. Mais en fait, c'est vraiment sortir une pratique de son contexte, l'importer un peu toute seule, comme ça, isolément, d'autres choses avec lesquelles elle va, pour donner l'impression qu'on est un peu dans un truc alternatif, alors qu'en fait... ça n'a pas grand-chose fondamentalement d'alternatif, plus que d'aller à la Philharmonie ou d'aller dans une salle de concert de rock ou quoi que ce soit. Enfin, c'est une expérience culturelle, voilà, dans laquelle, comme partout, il peut se passer des trucs pas prévus, mais bon, voilà.
Et justement, moi, ça m'intéresse parce que dans vos échanges avec les intermédiaires culturels, bon, à l'époque, mais déjà, il y avait cette référence. Est-ce que c'est... il y a une vraie volonté, enfin, une vraie conviction de se dire on retranscrit vraiment l'expérience berlinoise à Paris? Ou alors, est-ce que il y a quand même une conscience qu'il y a tout un aspect communication autour de ça? En sachant que... voilà, enfin, ça, c'est des choses... j'imagine que les intermédiaires, ils sont déjà dû sortir à Berlin et doivent se rendre compte aussi qu'il y a des différences qui sont difficilement importables à Paris. Mmh. Est-ce que... il y a quand même... Voilà, c'est une... ouais, je sais pas, une forme de conviction de rapporter cette nuit berlinoise à Paris, ou alors... parce que, bon, moi, après, c'est peut-être mon expérience personnelle, mais pour avoir... être sorti dans les deux villes, je trouve que c'est quand même complètement différent et que même le public, en fait, n'a rien à voir. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on voit toute cette histoire sur les... rien que sur l'histoire des bâtiments et de l'architecture, en fait, on comprend pourquoi... je sais pas, ça va être... même au niveau des espaces, les salles sont pas du tout... sont pas du tout agencées de la même façon. C'est des plus grands espaces à Berlin.
Je pense qu'au départ, à Paris, c'est pareil, c'est une scène qui est quand même composite et diversifiée. Donc, c'est sûr qu'il y a, des points de vue divergents. Voilà. Mais je pense que pour une partie de ces intermédiaires-là, il y avait vraiment la volonté de reproduire un certain nombre de choses qui ne se faisaient pas à Paris. Et par exemple, quand on voit la concrète, effectivement, qui a eu la première licence d'ouverture 24 heures sur 24 en France. Ça a quand même été une modification des usages. Enfin, c'est-à-dire que quand même, il y a eu un peu une transformation et ça a été un peu une lutte quand même, notamment avec la préfecture sur ces questions-là, qui a été appuyée par la mairie. Donc, il y avait quand même une volonté, je pense, authentique de changer les choses. Après, bon, aujourd'hui, 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, c'est un peu différent. Enfin, je pense que les choses ont quand même un peu changé par rapport à il y a 12-13 ans. Où là, la volonté... Enfin, je pense qu'il y a quand même des considérations commerciales derrière qui sont quand même plus fortes. Mais c'est aussi que, en fait, c'est plus rentable, disons, de faire référence à Berlin. Parce qu'en fait, en France, il y a aussi des histoires de lieux alternatifs qui ne sont pas... dans lesquels il y a certaines pratiques. Voilà, ça existe aussi. Et puis même les squats, les free parties. Je veux dire, les free parties, c'est quand même quelque chose d'assez important en France. L'histoire des free parties. Mais en fait, il vaut mieux, c'est plus bankable et ça attire pas le même type de public de dire qu'on va faire une soirée qui ressemble à Berlin que de dire qu'on va faire une soirée qui ressemble à la free party de Redon. Donc en fait, on mobilise pas les mêmes imaginaires et on n'attire pas le même type de public. Et je pense que c'est aussi ça qui s'est joué parce que c'est une frange d'intermédiaires qui a pris le pas sur d'autres qui étaient, parce qu'à Paris, il y avait des lieux qui existaient, qui étaient sans doute moins visibles. Mais qui ont été un peu, qui sont un peu sortis du radar et qui ont finalement été remplacés par des lieux plus orientés, en tout cas où la dimension économique était plus claire. Et par exemple, la concrète, eux, ils le disent, ils le disent très clairement, ces intermédiaires, quand ils ont créé le lieu. Oui, nous, on veut pas, on veut se distinguer des boîtes de nuit, un peu des Champs-Élysées, où les gens viennent juste pour boire et pour les trucs VIP. Mais on ne veut pas non plus être comme les free parties. Ils disent, voilà, moi, j'ai fréquenté vite fait les free parties, etc. Mais je ne veux pas... nous, on est sérieux. On fait un truc professionnel. On a des ambitions artistiques, etc. Et donc, on voit aussi qu'ils se distinguent des deux côtés, quoi. Et donc, la référence à Berlin, elle sert à renvoyer aussi un imaginaire alternatif, tout en n'étant pas non plus trop... un peu classe pop, un peu crado. Enfin, voilà, c'est l'alternatif, mais... qui dans l'imaginaire, parce qu'à Berlin, il y a aussi des lieux qui sont en déshérence un peu, qui sont, voilà. Mais dans l'imaginaire, ça, c'est un alternatif plus clean.
answer, 'cause I'm going insane. It's quite a long time ago. You brought me out of control. Hungry for your love, and like I know what that might be. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love, 'cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. You left me longing for you. 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 Season was the thing, and now I just can't let it go.
Sur les lieux justement et comment ils peuvent influencer les genres musicaux. Je repensais à cette partie dans votre travail sur voilà ce pouvoir aussi des lieux de musique de donner des significations à des genres, et s'ils jouent dans une salle et pas dans une autre, ça va prendre une direction un peu différente. Moi, ça me faisait un peu penser aussi à quelque chose. J'avais fait un entretien ici avec l'anthropologue Anna Kouomo qui, elle, travaille sur le rap au Burkina Faso et me parlait d'un quelque chose d'un peu similaire comme ça, où ça fait peut-être un peu écho aussi avec la question de la place, par exemple, ou de cette question à Paris d'essayer d'incorporer les banlieues et d'institutionnaliser le rap. Où en fait, là, elle parlait du cas d'un rappeur au Burkina Faso qui s'appelle Smarty, si je ne me trompe pas, qui avait pu jouer en France et qui, donc, lui, au Burkina Faso, fait du rap... conscient mais assez engagé, mais en s'inspirant vraiment des grandes figures du rap français, je sais pas, Booba. Donc il y a cette position là dans son pays d'origine, et puis une fois arrivé en France, en fait, qui va se retrouver, parce que dans ses textes et aussi dans l'imaginaire qu'il véhicule, il y a un peu cette figure de l'artiste africain engagé qui va éduquer sa population. Parce que c'est quelque chose, en fait, voilà, ça passait par des financements de l'Institut français, et qu'en fait il me racontait que voilà, quand il jouait en France, il se retrouvait dans une salle qui était plus musique du monde, mmh, avec des publics plus à tendance de gauche, anticapitaliste, etc. Et il me disait, mais lui, il s'en fiche, en fait, il veut jouer genre à Bercy. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un peu toute cette dynamique en permanence de légitimation, institutionnalisation, aussi les phénomènes de gentrification qui sont en question dans votre travail sur Berlin. Et comment en fait faire en sorte que les programmations en elles-mêmes soient à la fois plus ouvertes, mais aussi évitent un peu ce truc de modifier complètement le sens des musiques, En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une dynamique d'ouverture en permanence. Voilà, on voit bien que l'espace musical à Paris, il s'est vachement élargi. Il a quitté un peu intramuros. Et d'un autre côté, ça amène aussi d'autres problèmes de gentrification. À Berlin, je connais beaucoup moins cette question-là. Mais comment vous, à partir de votre terrain, de ces travaux, peut-être des évolutions aussi récentes, quelle piste, en fait, quel rôle ils peuvent avoir les intermédiaires culturels pour éviter ces phénomènes-là de, à la fois de finalement reproduire des rapports de domination, mais je pense même pas qu'ils soient volontaires en fait, mais dans les faits, il y a cette espèce d'incompréhension et aussi ce rapport un peu classe populaire plus classe plus aisée.
Bon, après, alors comment ils peuvent faire pour éviter, je sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai que le monde musical ou le monde de la nuit, c'est souvent, par exemple, quand on entend un peu, quand on lit des comptes rendus journalistiques ou quand on entend des gens un peu parler de ça, il y a très souvent cette idée, et ça fait partie de l'attrait, en fait, de ces lieux, de se dire, ah là là, le frisson un peu, que tout le monde va être mélangé, on peut croiser un peu n'importe qui, un peu comme les discours qu'on peut entendre sur le Palace, où à la fois, il y avait les stars du moment, et puis... je sais pas, des personnes qui étaient à la rue mais qui venaient passer et faisaient le spectacle. Enfin bon, cette espèce de mélange, de comme ce côté un peu carnavalesque qu'on retrouve très souvent dans les descriptions. Et en fait, les espaces musicaux et les espaces de vie nocturne, c'est comme beaucoup d'endroits, c'est un peu des machines à trier socialement. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, à la fois, il faut qu'il y ait quand même un peu de mélange pour provoquer un peu de... cette idée qu'il pourrait se passer quelque chose en dehors du commun, c'est-à-dire enfin, en dehors de la normalité. Donc nous, notre normalité, le jour en général, c'est qu'on fréquente des personnes quand même socialement assez précises par le travail. Alors on peut rentrer en contact avec d'autres groupes sociaux, mais selon certaines modalités, etc. Et donc l'idée, c'est que la nuit, ces frontières-là seraient plus floues. Donc il faut qu'il y ait cette idée un peu là. Et à la fois, on voit que les lieux, ils ont des pratiques... pour cibler certains publics, parce que voilà, ils vendent entre guillemets des artistes et il faut les faire consommer par des publics. Enfin, c'est ça un peu le rôle des intermédiaires. Et donc, notamment quand c'est des artistes internationaux, bah, il faut les labelliser pour qu'ils puissent être compris et par des publics qui ne les connaissent pas forcément. Donc, d'où par exemple cet artiste, ça c'est extrêmement classique. Bah, il y avait un chapitre dans ma thèse plus sur les circulations internationales, justement. Que j'ai supprimé, dont j'ai supprimé la très grande majorité pour la publication du livre parce que c'était trop long. Mais justement, où il y a ce travail d'encodage, en fait, pour que des gens qui circulent internationalement soient lisibles pour des publics locaux. Parce qu'en fait, les publics qui sont dans une ville, c'est des publics locaux qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que qui ne connaissent pas forcément ces artistes-là. Et donc, on va les retraduire dans des grilles qui sont très souvent, et ça, on le voit, bah moi, j'avais enquêté sur ça plutôt sur le jazz et musique du monde, qui sont très souvent des grilles qui peuvent être à forte connotation sexiste, raciste, et qui font appel, en fait, à des signifiants pour faire lire les choses. Et donc, cette question d'un certain nombre d'artistes qui viennent de pays qui sont considérés comme qui sont minorisés, en fait, dans des rapports de domination internationaux, en fait, qui sont très souvent mis dans les musiques dites du monde, au lieu de dans leur genre de musical, ou alors dans des programmations, par exemple, thématiques plutôt que géographiques, ce qu'on ne fait pas avec les artistes américains. Par exemple, on fait très rarement programmation des artistes des États-Unis ou des choses comme ça, bon, même si à l'heure actuelle, peut-être que ça sera un peu plus, mais voilà. C'est des choses qu'on voit. Donc, le travail des intermédiaires, c'est un peu de faire ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'eux, ils reproduisent un peu des critères de classification propres à leur ancrage local et à leur propre trajectoire. Et ça, c'est vrai que, par exemple, à Berlin, il y avait un des programmateurs qui critiquait énormément cette façon de programmer, typiquement. Donc, c'est vrai que eux, leur travail, c'est à la fois d'hétérogénéiser et d'homogénéiser. Donc, ils sont toujours dans cette tension à la fois sur les publics, donc mélanger les publics, mais en même temps, pas trop mélanger les publics. Pareil sur les artistes, avoir en fait des choses inattendues, mais en même temps, pas trop, parce qu'ils vendent quand même quelque chose et il faut que ça soit... consommé, et donc il y a des gens qui achètent le concert, qui payent. Et donc c'est ça qui est assez compliqué, mais il me semble quand même, en comparant les deux villes, que un des enjeux, c'est quand même de laisser accès, enfin en tout cas qu'il y ait une diversité suffisante de types de lieux, en fait, parce qu'on ne peut pas forcément forcer tous les lieux à avoir cette, enfin voilà, à prendre en compte certains critères dans leur programmation. Alors ils prennent tous en compte différents critères, mais on peut pas toujours jouer sur tout. Et donc, il me semble que ce qui est important, c'est qu'il y a une diversité de lieux aussi à l'échelle de la ville et que justement, ces dynamiques de concentration et ces dynamiques d'entre-soi qui sont extrêmement fortes, par exemple à Paris, chez les intermédiaires de la musique, ça fait qu'en fait, on a des lieux qui se ressemblent beaucoup, qui sont tous un peu d'accord sur ce que c'est la valeur musicale et donc les hiérarchies musicales. Et donc, ça exclut à la fois certains genres de musique, certains types d'artistes, certaines géographies desquelles viennent les artistes, parce que les réseaux, ils sont, enfin les réseaux de programmation, ils sont aussi basés sur des origines nationales, des choses comme ça, des origines aussi nationales, hein, voilà, de régions en France, etc. Et donc tout ça, je pense que c'est ça qui est important, c'est aussi de réfléchir à la diversité des intermédiaires et des lieux à l'échelle de la ville.
Le
justement, ça, c'est, je trouve, c'est un des aspects qui vraiment m'a beaucoup intéressé dans votre enquête, c'est tout ce fonctionnement de la programmation entre les deux pays, où d'un côté à Paris, il y a ce côté plus professionnalisé, gestionnaire, et ce fonctionnement par clic, et le côté plus militant politique à Berlin. Déjà, depuis votre enquête, est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être de noter des évolutions, de voir un peu comment ça, enfin quelle forme ça a pris en une petite dizaine d'années. Mais un des aspects assez intéressants aussi, c'est toute cette thématique de la rendre les programmations plus inclusives, où on voit bien que bon, bah déjà, ça s'aborde pas de la même façon entre Paris et Berlin, et où à Paris, c'est quand même assez compliqué de. Enfin, il y a cette espèce de tabou autour des quotas, des statistiques, etc. Et ce qui est une des pistes aussi, mais ce que vous montrez aussi, c'est que finalement, ça ne suffit peut-être pas non plus parce qu'il y a toute cette hiérarchie de base culturelle artistique dans les métiers des intermédiaires culturels qui vient un peu d'une socialisation masculine, adolescente, le fonctionnement des sous-cultures musicales qui surplombe aussi, mais... de façon encore plus sous-jacente tout.
C'est vrai que sur la question des programmations et donc de la diversité des artistes selon différents critères dans les programmations, en fait, au moment où moi j'ai fait mon enquête, il y avait à Paris, c'était une question assez difficile à aborder. Enfin, les gens vraiment n'appréciaient pas du tout cette question. Y compris ceux qui étaient du côté des pouvoirs publics, hein, dont un représentant du ministère m'avait quand même dit « je vois pas l'enjeu, j'ai pas l'impression que ça soit très inégalitaire, etc. » Alors que bon, les chiffres sont quand même assez atterrants. Donc voilà, donc on voit que c'était quand même une résistance à différents niveaux. Aujourd'hui, on voit que c'est une question qui a été vraiment, à Paris, enfin en tout cas, et en France, qui est beaucoup plus présente. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment ces dernières années... énormément de discussions sur la question des inégalités genrées de programmation. Il y a aussi des politiques publiques qui ont été mises en œuvre par le Centre national de la musique, même si on peut penser qu'elles sont largement insuffisantes. Voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est pris beaucoup plus frontalement à bras-le-corps, à la fois par des personnes qui travaillent dans les programmations, qui travaillent à la programmation, et par les représentants des pouvoirs publics. Après, et donc moi j'ai été par exemple conviée à beaucoup d'événements pour parler de ça, voilà. Il y a vraiment une demande en fait sur ces questions-là. Après, quand même, quand on regarde les chiffres, hein, c'est-à-dire que les chiffres n'ont pas non plus changé radicalement. C'est ça quand même, c'est là qu'il y a un petit truc. C'est-à-dire que oui, cette question est très présente dans les discours, et oui, il y a un certain nombre de collectifs qui prennent en charge cette question, mais peu de lieux où. Enfin, c'est vrai que les programmateurs et programmatrices n'ont pas tant changé que ça non plus. Il y a eu une ouverture un peu plus large aujourd'hui en termes d'origine sociale, d'origine nationale, etc. Mais bon, malgré tout, il n'y a pas non plus une grande révolution. Les hiérarchies de pouvoir n'ont pas non plus tant bougé que ça. Et les chiffres ne bougent pas tant que ça. Donc pour moi, il y a beaucoup de discours, mais pour l'instant, on attend encore un peu les résultats de ça. Et après, il me semble aussi que cette question, les inégalités genrées, c'est quelque chose qui est beaucoup plus audible aujourd'hui. Autant tout ce qui concerne les inégalités raciales dans la musique, ça reste quand même un sujet, on voit en France, lié aussi à l'histoire, la façon dont c'est constitué, la République, etc. On voit qu'il y a une très grande réticence à aborder ces questions, autant du côté des pouvoirs publics que du côté des programmateurs et programmatrices. Donc, il y a effectivement quelques lieux qui prennent en charge ces questions, mais c'est quand même très minoritaire. Et donc, il me semble que ça, c'est vraiment une question qu'il faudrait prendre plus frontalement et plus globalement, en fait. Je trouve que cette focalisation sur l'accès... d'artistes selon tel ou tel critère à la programmation, donc c'est très important. Mais en fait, si on n'a pas, enfin, ce qui est difficile, c'est que pour remettre en question ces inégalités, il faut aussi remettre en question d'une certaine façon les hiérarchies artistiques. Et c'est là que le bât blesse, parce que dans les milieux artistiques, c'est très très difficile de faire entendre ça, de dire, par exemple, pourquoi est-ce que tel type de musique est plus valorisé que tel autre, et sachant que en fait, ça recoupe par exemple des groupes sociaux en termes de genre et de race par exemple différents, et on constate que comme par hasard les hiérarchies elles vont toujours dans le même sens. Et donc, en fait, tant qu'on ne remet pas en question, c'est, par exemple, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, quand je pointais les inégalités, notamment d'origine nationale d'artistes, donc entre des artistes qui venaient, par exemple, plutôt des États-Unis, qui étaient très valorisés, versus des artistes qui venaient plutôt de pays d'Afrique subsaharienne, qui étaient moins valorisés dans des musiques liées au jazz. Et il y avait un chercheur, notamment, qui m'avait dit, oui, mais là, toi, tu mélanges jazz et musique du monde. Et donc, en fait, en renvoyant les uns aux musiques du monde, et donc, ce n'est pas les mêmes types de genres, et donc, ce n'est pas valorisé pareil, et donc, les prix des places ne sont pas les mêmes, donc, les salles ne sont pas les mêmes, etc. Alors qu'en fait, les musiques étaient voilà, plus ou moins dans le même espace, quoi. Enfin, et donc, on voit que ces questions de genre musical et ces questions de hiérarchie artistique, elles recoupent d'autres hiérarchies, à la fois nationales, raciales, genrées, et on pourrait continuer avec d'autres critères et d'inégalités sociales. Et donc, en fait, il y a un moment, bon, forcément, ça renvoie aux inégalités sociales plus générales dans la société, enfin, voilà, mais aussi à des questions de comment on a construit la valeur artistique. Et ça, c'est quelque chose que les intermédiaires comme les artistes ont quand même un peu de mal à entendre. Voilà. Et ça demande de changer aussi des pratiques, des fonctionnements, qui programme. Qui accèdent à ces positions-là, et ça, ça ne change pas du jour au lendemain. Et il y a quand même beaucoup de réticences cachées. C'est-à-dire que souvent, on dit oui, qu'est-ce qu'on pourrait. Enfin, moi, quand je parle dans des débats consacrés à ça, très souvent, le focus, c'est comment est-ce que les femmes ou d'autres minorités, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour mieux accéder, machin. Mais en fait, on ne parle pas des résistances quand même assez fortes de ceux qui sont dans des positions de pouvoir et qui sont effectives. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça. Et des violences en fait auxquelles sont confrontés ces différents groupes minorisés qui aussi servent à les maintenir à l'extérieur de ces espaces-là. Donc je pense que ça c'est quand même une question qui certes de laquelle on parle beaucoup mais qui pour l'instant n'est pas si enfin ne change pas tant que ça.
Taxi. Taxi. Taxi.
Qu'est-ce que c'est votre truc? Ça doit pas rentrer dans beaucoup de voitures. C'est pas souvent qu'on prend des machins comme ça. C'est pas un instrument qu'on voit beaucoup. Comment ça s'appelle ça? C'est un cadavre, on attrape de gros bras avec ça. J'en ai de tout, des orchestres complets, avec des ronds. Au moins quand vous êtes fatigué, oh ça vaut 3000 balles. Qu'est-ce que c'est votre truc? Qu'est-ce que c'est votre truc? C'est une guitare de poche. C'est pas un instrument qu'on voit beaucoup, fallait apprendre la flûte. Y a combien de cordes à ça? On rencontre de tout dans les taxis. Vous allez pouvoir le rentrer, votre cadavre. Fichez-le par là, votre truc. En général, c'est plutôt les hommes qui jouent ça. C'est votre métier? Qu'est-ce que c'est votre truc? Qu'est-ce que c'est votre truc? C'est une guitare de poche. Fallait apprendre la flûte. Ça pèse lourd quand même, ça. Qu'est-ce que c'est comme instrument? Vous pouvez vous appuyer dessus, ça sert toujours à ça. Un jour, le gars, il me donne un tableau. On l'attache tout. Avec mousse, avec le vent, le tableau est tombé dans la Seine. Il valait plusieurs millions, il est resté dans la Seine. En plein hiver, vous ne croyez pas que j'allais le chercher, son truc. Votre truc, vous y prenez soin, pire qu'une mariée. On gratte, c'est plus sensuel. Mais elle n'aime pas être serré, cet appareil. Ça lui fait mal à ses cordes vocales. On voit plus de violoncelle, des guitares, quoi. Qu'est-ce que c'est votre truc? Qu'est-ce que c'est votre truc? C'est une guitare de poche. Vous tuez votre amant et vous le mettez dedans. C'est mieux dans le coffre, vous la laissez dépasser. Les taxis, c'est pour les personnes. J'ai emmené des millions de valises en pur croco. C'est pas un instrument qu'on voit beaucoup. C'est une guitare de poche avec des écailles. C'est pas souvent qu'on prend des machins de poche. J'ai emmené de tout, des gros bras avec des écailles. C'est pas une guitare qu'on voit beaucoup, ça. Au moins quand vous êtes fatigué, vous tuez votre amant comme un sac de patates. Vous la laissez dépasser, votre cadavre, pire qu'une mariée. Remarquez, on est tous des artistes du moment que les objets dans les voitures, ça pèse lourd, ça. Un jour, j'ai pris une femme.
C'est pas un instrument qu'on voit beaucoup. Il faut avoir envie de faire de la musique. Qu'est-ce que c'est votre truc? Il faut avoir envie de faire de la musique. Dans le train, il la balance comme un sac de patates. Vous ne risquez pas de l'oublier. Petit, petit souci, grand, grand souci. On ne peut pas jouer tout seul. C'est pas un instrument toujours facile. On n'est pas assuré pour les objets. J'ai emmené de tout, les machins, les ronds de chapeau, les trucs. Un canari dans une cage, il ne vous prend pas. Qu'est-ce que c'est votre truc? Qu'est-ce que c'est votre truc? Il fallait apprendre l'harmonica. Taxi, vous ne... Un canari dans une basse, il ne vous prend pas, c'est un animal. Il peut être allergique à la plume. Un jour, le gars, il me donne une basse. On l'attache avec mousse, avec le vent, elle est tombée dans la Seine. Comment ça s'appelle, ça? C'est un homme de poche, ça pèse lourd, la musique. On attrape de gros bras, remarquez, on est tous des bassistes. Qu'est-ce que c'est, sex-cris? J'ai emmené de tout, les cadavres, les machins, les trucs, les musiques. Qu'est-ce que votre bras, mousse, pop, poche, des tableaux, des mariés, des trucs, instruta, machiste, basse, stax, sol, mi, cra, des cadavres, des trucs, des trains, des zones, des chaumes, tax, tout, là, oh.
Alors, alors, déjà, pour les objectifs de la recherche, alors je ne sais pas... Bah, il me semble que c'est vrai que c'est un des intérêts et un des luxes de la recherche, entre guillemets, c'est de pouvoir en fait se pencher sur un sujet pendant un certain temps. Et c'est vrai qu'on ne retire pas la même chose de se pencher sur un sujet pendant 2-3 ans que de se pencher sur un sujet pendant 2-3 mois, quoi. Enfin, forcément, ça ne donne pas les mêmes résultats. Et parfois, ça permet de... sortir de certains a priori qui sont quand même très véhiculés, voilà, ou de se rendre compte de certaines choses qu'on n'avait pas initialement pensé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit, hein, là, un peu au fur et à mesure de l'entretien, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui me sont venues du terrain que je n'avais pas forcément tant anticipé que ça, y compris avec mes lectures. Alors, je n'avais peut-être pas suffisamment bien cadré mon sujet, mais je pense que c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un peu de temps pour réfléchir. Donc, voilà, moi, il me semble que la recherche, ça permet quand même d'apporter un peu un regard réflexif sur les choses. Et parfois de réfléchir aux choses différemment, de se rendre compte que ailleurs ça se passe différemment. Et après, bah, dans les temps, je pense qu'aujourd'hui, dans un temps politique où quand même, bon, on pense beaucoup aux États-Unis, mais en fait, déjà, il n'y a pas que les États-Unis comme pays dans le monde où il y a vraiment des très grosses difficultés pour les sciences sociales, en particulier, enfin, les sciences humaines et sociales, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres pays, les États-Unis sont juste, c'est juste comme c'est le pays le plus visible, voilà, on parle que de ça. Mais aussi en France, enfin, je pense qu'il ne faut pas se leurrer qu'en France, les réticences envers la recherche académique sont quand même extrêmement fortes, et particulièrement en ce qui concerne la sociologie. Et donc moi, il me semble quand même qu'il y a un rôle, alors ce n'est pas pour dire que la recherche est militante, mais en fait, par les temps qui courent, même produire une recherche en essayant de mettre en avant un certain nombre de résultats qui ne sont pas forcément ce qu'un certain nombre de politiques ont envie d'entendre, devient en soi un acte militant, mais par le fait que la société, en fait, bouge et qu'on soit ça de cette façon, mais ce qui en soi n'est pas, enfin, sans que les gens disent nécessairement des choses spécialement militantes. Donc moi, ça me semble important quand même de continuer à répéter un certain nombre de choses qu'on sait déjà, mais qui ont du mal à être entendues, notamment sur les questions des inégalités, des discriminations. Je pense que c'est important, des rapports de domination. Donc ça, c'est peut-être un objectif de la recherche, et puis aussi d'éclairer, bah voilà, comment fonctionne le monde contemporain. Je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà, mais bon, je prêche un peu pour ma paroisse, évidemment. Et après, alors des chocs théoriques. Bon, je pense quand même que quand j'ai découvert, donc moi, j'avais bon, plutôt par ma directrice de thèse, Gisèle Sapiro, j'ai découvert les travaux de Pierre Bourdieu. Ça a quand même été dans ma vie un choc théorique fort, quoi. J'ai vraiment, enfin, ça m'a quand même beaucoup apporté. Ça construit beaucoup, en fait, même si aujourd'hui je travaille peut-être plus de façon aussi centrale avec les théories bourdieusiennes, c'est-à-dire que je les mobilise plus tant que ça, pas forcément explicitement, mais ça construit beaucoup ma façon d'appréhender à la fois l'enquête empirique, la construction de mes objets. Enfin, je pense que ça reste très déterminant dans ma construction de mes recherches. Donc ça, c'est peut-être quand même un gros choc théorique que j'ai eu. Et après, je pense que j'ai... Enfin, voilà, c'est des choses avec lesquelles on évolue au fur et à mesure des années. Il y a beaucoup de travaux, enfin... Je pense que qui m'ont, enfin oui, je sais pas là, j'aurais pas de forcément de nom en tête, mais toutes les approches sur les inégalités de genre et de race en particulier, je pense que ça m'a quand même beaucoup, enfin c'est des choses que j'ai pris en compte au fur et à mesure et que je continue de prendre, enfin d'apprendre sur ces questions-là. Et après, je pense que la sociologie urbaine, quand même pour moi, ça a aussi été quelque chose d'assez important, voilà, de voir ces interactions entre les acteurs, enfin les personnes qui contribuent à fabriquer la ville telle qu'elle est, à la fois du côté des usagers, des personnes, enfin c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, quoi, et qui reste très important pour moi dans mes travaux aujourd'hui.